écrit par Gustave Le Nôtre, le vrai chevalier de Maison Rouge. Chapitre 6. L'émigration. Qu'était donc devenu Rougeville? C'est par lui seulement que nous l'apprenons. Voyant le succès de la conspiration compromis, apprenant que Michonny, Fontaine, les Richards étaient arrêtés, il quitta le 3 septembre sa maison de Vaugirard, emportant une petite provision de linge et s'enfuit. Le jour même, sa tête était mise à prix, son signalement répondu à profusion, et l'on dépêchait à ses trousses l'inspecteur Baudret, l'un des plus fins limiers de la police révolutionnaire. Celui-ci mit tous ses agents en campagne, organisa des souricières à toutes les maisons où l'on pouvait penser que le fugitif se réfugierait. Tout fut inutile. Rougeville était bien caché. Il avait élu domicile dans les carrières de plâtre de Montmartre. De là, sortant pendant la nuit, il suivait les événements. Quelle dramatique et passionnante histoire on pourrait écrire s'il avait pris le temps et la peine de consigner sincèrement ses souvenirs. L'odyssée de cet homme, en lutte ouverte avec la société, dormant dans un souterrain, narguant la police, allant en cachette et sous un déguisement frapper à la porte de quelqu'un de ses complices, formerait un récit plus attachant encore que le roman dont il est le héros. Écrire ses mémoires, il y songeait bien, ma foi. Le temps qu'il passa ainsi à dépister les policiers fut employé par lui, du moins il s'en vante, a composé une sorte de pamphlet qu'il intitula follement « Les crimes des Parisiens envers leur reine » par l'auteur des œillets présenté à la reine dans sa prison. Il fit de ce factum plusieurs copies, aujourd'hui perdues sans nul doute, et il les envoya à la Convention, au comité, au président du tribunal révolutionnaire. Puis, la conscience ainsi en repos, il prit tranquillement le chemin de la Belgique. Ici encore, nous manquons de détails sur ce voyage qui dut s'effectuer dans les premiers jours d'octobre et qui fut certainement mouvementé, si l'on en juge par les émouvantes périphéries dont furent victimes ceux qui, comme Delors par exemple, gagnèrent la frontière dans les conditions à peu près semblables. Peut-être, après tout, Rougeville prit-il simplement place dans la diligence. Il était un de ces hommes auxquels toutes les audaces réussissent. Quoi qu'il en soit, il arrivait le 12 octobre à Bruxelles. Il se trouvait là au centre de l'émigration. Bruxelles avait été occupée par les troupes françaises le 13 novembre 1792. Mais après la déroute de Dumouriez, les Bruxellois, que les exactions des vainqueurs avaient indignés, rouvrirent leurs portes au prince de Cobourg. Il reprit possession de la ville le 15 avril 1793, et avec lui rentra une foule d'émigrés, aigris, appauvris, non découragés cependant et toujours présomptueux, que le court séjour de l'armée française avait forcé à s'éloigner momentanément. Ces émigrés firent à Rougeville un accueil assez froid. Ils ignoraient, sans doute, son dévouement à la cause royale. Et s'il ne résista pas à leur raconter son entrevue avec la reine, il dut le faire en termes tels que la chose parut invraisemblable et tout au moins exagérée. En outre, il nourrissait contre l'émigration une haine violente qu'il ne cherchait pas à déguiser. Il ne pouvait excuser, et en cela il nous semble sincère, ceux qui tenaient de la monarchie leurs titres et leurs fortunes, d'avoir déserté la terre de France à l'heure où le roi et la reine avaient besoin de tous leurs serviteurs. Il ne leur pardonnait pas d'avoir mendié le secours de l'étranger. Même, il avait rédigé à leur adresse une sorte de manifeste où nous relevons ces phrases, curieuses à relire quand on sait comment il devait terminer son aventureuse existence. Vous avez cherché des amis dans vos plus grands ennemis. Vous avez cherché des protecteurs, des soutiens, des défenseurs de votre roi et de votre patrie, dans ceux qui en désiraient la destruction et l'anéantissement. En coalisant toutes ces puissances pour votre roi et pour vous, vous les avez réunis pour vous vaincre. D'ailleurs, moi je dis, quelque belle que soit leur victoire, je n'en saurais être content. J'aimerais beaucoup mieux vous entendre parler ici de république que d'entendre la renommée parler si avantageusement des puissances. Rougeville ne devait pas, on le verra, toujours parler ainsi. Mais on peut juger qu'un tel langage, tenu par un vulgaire fils de traitant, n'était rien moins qu'agréable au vieux noble intransigeant qui s'était figuré que la France ne pourrait se passer d'eux et qui, depuis 3 ans, était réduit à végéter tristement à la suite de l'armée de Cobourg. Cet homme, qui avait dîné avec les Jacobins, qui s'était courageusement jeté dans la mêlée révolutionnaire, qui avait goûté des prisons de la terreur et vécu en paria de la société dans les carrières de Montmartre, était pour eux un reproche vivant. Aussi préférèrent-ils ne pas croire un mot de son étonnante histoire et le considérer comme un plat aventurier. 3 mois à peine s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Rougeville à Bruxelles, que dénoncé comme un espion des armées révolutionnaires, lui qui, à Paris, était regardé comme un agent de Cobourg, il fut appréhendé au corps et interné aux prisons de Trosenberg. Et alors, ne pouvant plus conspirer, il se remet à écrire. Le long rapport qu'il adressa de son cachot au prince de Metternich est une des pièces les plus curieuses de son dossier. Il y raconte toute sa vie, y expose tous ses actes. Nous avons déjà puisé là bien des renseignements sur sa conduite pendant la Révolution. Mais, dû cet emprunt faire double emploi avec certaines pages qui précèdent, nous ne pouvons passer sous silence le récit qu'il trace, dans ce rapport, de la conspiration de Lheuillet. Par l'effet nouveau qu'il contient, aussi bien que par son style solennel et ampoulé, ce document nous semble devoir être conservé, au moins dans sa partie la plus intéressante. La mort du roi, dit-il, m'accabla extrêmement, mais ne m'abattit pas, puisqu'il me restait l'espoir de sauver la reine et ses augustes rejetons. Aussi ai-je reparu sur la scène, non avec plus de fermeté et de valeur, mais avec celle que la rage de l'horreur d'un tel forfait peut inspirer à un homme vraiment attaché à ses souvenirs et à ses devoirs. Je vis encore une fois tous mes affidés, leur fis sentir combien il était instant que chacun d'eux s'occupât, en particulier, de faire le plus de prosélytes qu'il pourrait, afin de sauver les Français d'un second crime et de punir les autres du premier. Qu'en un mot, il fallait sauver la reine et son auguste famille. Dans le cours de ces négociations, je ne sus sans doute point assez sceller mon indignation sur le premier attentat, et je fus encore arrêté le 31 mai 1793. Je restai dans les prisons de Madelonnette 3 semaines, au bout desquelles je parvins à en sortir par le moyen des administrateurs que j'avais séduits à prix d'argent. J'avais distingué parmi eux le sieur Michonny, auquel je m'attachais particulièrement. En effet, c'est Michonny qui, le 28 août, m'introduisit chez la reine, alors détenue dans un horrible cachot à la conciergerie. Je lui remis 2 œillets, chacun renfermant un billet où était le plan bien concerté et sûr de son évasion, moyennant qu'elle voulut bien s'y prêter. À peine fus-je entré dans l'antre obscur du dépôt sacré et du gage précieux que fit la magnanime Thérèse à la France, à peine mes yeux avaient-ils aperçu cette auguste victime, que je la vis près de moi, et me prenant et serrant la main. « Malheureux, me dit-elle, votre témérité me fait frémir. Savez-vous à quel danger vous vous exposez en pénétrant dans mon séjour affreux ? Ne vous occupez pas de moi, lui répondis-je. Un de vos cheveux est plus précieux que ma personne. J'ai de l'argent, des hommes, des administrateurs, enfin des moyens sûrs pour vous tirer de cette sinistre habitation. Fuyez, me dit l'auguste victime, faible, épuisé comme je le suis, en quoi puis-je vous aider ? Encore quelques moments, et la nature va épargner au scélérat le dernier des crimes. Grand Dieu, de quel spectacle affreux ai-je été le témoin ? Un spectre tout défiguré, la mort empreinte sur sa royale figure. Le simple récit glace d'horreur, et c'est vous, être auguste, qui avez tressailli à ma vue par le danger que j'encourais en pénétrant dans votre cachot, tandis que je venais pour vous y soustraire ou mourir à vos pieds. C'est vous, dis-je, qui deviez en être effrayé, qui a été la seule à le contempler de sang-froid, tant l'héroïsme de la vertu est au-dessus de toute crainte. Le 30, je parvins encore à pénétrer dans sa prison, mais avec de nouvelles précautions et sous un autre costume. C'est dans cette entrevue que je remis à Sa Majesté 400 louis en or et 10 000 livres en assignat, et qu'il fut arrêté, malgré l'extrême faiblesse où elle se trouvait, que ce serait la nuit du 2 au 3 septembre. Toutes choses bien concertées, accompagnées toujours de Michonny, nous nous rendîmes la nuit du 2 à la prison et nous y trouvâmes la reine disposée à se prêter à toute tentative d'évasion. Nous avions déjà passé tous les guichets et n'avions plus que la porte de la rue. Quelqu'un des deux gardes, à qui j'avais donné 50 louis en or, s'opposa avec menace à la sortie de la reine. Il est aisé de juger du trouble où j'ai pu me trouver. La douleur peut être sentie, mais jamais se décrire. N'ayant enfin plus que des larmes à verser sur le sort de mes augustes souverains, et cette dernière démarche ayant attiré l'attention de tous les assassins, je pris le parti de me réfugier dans les carrières de Montmartre où, dans les angoisses de ma douleur, j'ai travaillé à répliquer à une brochure intitulée « La grande découverte du grand complot de l'enlèvement de la reine par un chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus » qu'avait déjà fait, sur cette dernière tentative, le trop célèbre et scélérat père Duchesne. Cette réplique avait pour titre « Les crimes des Parisiens envers leur reine » par l'auteur des œillets présentés à la reine dans sa prison, et je fus moi-même en déposer plusieurs exemplaires, avec ma fermeté ordinaire, sur les bureaux de la Convention nationale et du Tribunal révolutionnaire, quelques moments avant l'ouverture de leur criminelle séance. C'est à cette époque où ils me traitèrent d'audacieux, mirent tout en usage pour m'arrêter, firent les plus sévères perquisitions et visites domiciliaires de jour et de nuit, firent fermer les barrières de cette criminelle ville, envoyèrent mon signalement dans toutes les sections, dans tous les départements, enfin mirent ma tête à prix. Quoi qu'il en fût, je suis encore trompé leur diabolique vigilance et je parvins à travers les plus grands dangers à me rendre le 12 octobre 1793 auprès de Son Altesse le prince de Saxe-Cobourg à qui je fis part des intentions de la reine. Ce prince, aussi pénétré de la position affreuse où se trouvait Sa Majesté que flatté de la marque de confiance qu'elle me témoignait, me dit que cette mission regardait directement le gouvernement. Il me pria de vouloir bien me rendre à Bruxelles pour conférer avec lui et me donna un officier pour m'accompagner. Je me rendis donc chez monsieur le comte de Mercy avec la lettre dont le prince m'avait chargé. À son départ, je me suis transporté chez votre excellence où je la suppliais d'en faire la lecture. Alors, Son Excellence me dit qu'elle me ferait prévenir du moment où je pourrais conférer ensemble. L'après-midi, Je vis arriver chez moi l'adjudant de Monsieur le Général Binder, qui me dit que Son Excellence me faisait prier de ne point communiquer avec aucun émigré, même de m'abstenir de manger à la table d'hôte. Mon imperturbable attachement pour mes souverains me mettait à l'abri d'une telle recommandation. Effectivement, plusieurs émigrés m'abordèrent et vinrent me féliciter sur ma loyale conduite tenue en France. Je suis, leur dis-je, aussi indifférent sur les louanges que sur le blâme, heureux seulement d'avoir rempli un devoir sacré, et il me suffit d'avoir l'estime de moi. Ils me firent part de leur détresse. Je leur répondis que mes ressources n'étaient que de prévoyance. Et comme ils ne pouvaient m'assurer l'époque juste de notre rentrée en France, je ne pouvais leur être d'aucun secours. Ils me demandèrent le sujet de ma mission. Je les traitais d'indiscrets. Ils me proposèrent de leur acheter de faux assignats. Je leur répondis que je n'adoptais pas même les vrais et que d'ailleurs, il existait une loi qui punissait de mort les contrefacteurs. Aucunement satisfaits de ma réception et de mes réponses, ils me laissèrent. Mais ils s'assemblèrent au parc, formèrent ensemble un conciliabule au grand salon, au café de la montagne de la cour. Là, ils délibérèrent les moyens les plus sûrs pour attaquer ma réputation. C'est alors qu'ils me traitèrent d'espion, de carmagnol. J'eus l'honneur d'en prévenir Son Excellence qui me dit que j'étais au-dessus de tout cela et que le mépris était l'arme de la vengeance. Je me résume donc et suppliais Son Excellence de vouloir bien analyser ma conduite depuis 1789 jusqu'à mon arrivée à mon séjour à Bruxelles, dont une partie des pièces authentiques et détaillées sont dans ses mains. J'en ai d'autres qui viennent encore à l'appui de ce que j'avance. Ce sont des lettres de Monsieur de la Porte, ministre intime de Sa Majesté, et de Monsieur le Maréchal, duc de Brissac. Enfin, de Messieurs de Malesherbes et de Sèze, défenseurs officieux de Leur Majesté, qui furent chargés par elle de me faire part de leurs sentiments pour moi. Je pourrais ajouter que, né de la province d'Artois, jadis soumise à l'empire de Sa Majesté l'Empereur et à la domination de ses ancêtres, nous avons toujours conservé nos anciens principes de respecter Dieu et les rois. Les miens ont été principalement chéris de la maison d'Autriche et lui ont sacrifié de tout temps leur sang. Le dernier, qui était le premier de mes frères, est encore mort au service de Sa Majesté l'Empereur, le 5 mai 1785, en qualité de premier lieutenant, au régiment de Richecourt, chevaux légers. Rougeville concluait, en suppliant le comte de Metternich, d'implorer en son nom la clémence de l'empereur et d'obtenir sa liberté. Ce rapport, dont la minute fut saisie plus tard chez l'incorrigible conspirateur, fut écrit le 23 mars 1794. Le comte de Metternich ne daigna pas y répondre. Mais Rougeville n'était pas d'un caractère à se contenter d'attendre en prison le bon plaisir ou le caprice de Sa Majesté impériale et royale. On ne voulait pas l'entendre? Soit, il se passerait de protecteur, et il mit aussitôt son esprit inventif en quête d'un projet d'évasion. Ce projet, les papiers de Rougeville nous l'ont seul révélé. Non point qu'il y soit exposé ni compté. À première vue même, on passe sans grande attention sur les lettres qu'on va lire et qui paraissent être des réponses à quelques nouvelles suppliques. Mais un examen plus attentif, la comparaison des dates, de menus indices, plus probants encore, viennent éclairer l'habile machination imaginée par le prisonnier et l'on finit par connaître son subterfuge aussi bien que s'il en avait lui-même fait l'aveu complet. Disons tout de suite que cette machination reposait sur un faux fabriqué de toutes pièces. On s'apercevra du reste, par la suite de ce récit, que Rougeville n'était point le héros pur et sans tache que le roman a représenté. La légende s'est plu à faire de celui qui avait tenté de sauver la reine un être presque idéal, un chevalier sans reproche, quelque chose comme l'attendrissant Blondelle de Richard. La vérité est bien plus humaine et aussi bien plus pittoresque. Du jour où Rougeville entra en lutte contre la Révolution, son premier soin fut de mettre de côté tout scrupule. Se sentant en présence d'adversaires que les principes et l'honneur ne gênaient pas, il voulut les combattre à armes égales. Et alors commença pour lui cette existence de déguisement, de mensonge, de ruse, de tromperie, où il semble se mouvoir sans aucune gêne. Réfléchissait-il à tout cela seulement ? Je ne le crois pas. Il avait le don, il était né conspirateur, et j'imagine que cette singulière aptitude exclut en premier lieu la franchise et la droiture. Si l'on éprouve quelque malaise à mentir, à prêter de faux serments, à duper les gens, à les compromettre au moment opportun, le plus simple est de ne point se mêler à un complot qu'une telle délicatesse suffirait à faire échouer du premier coup. Donc Rougeville souhaite sortir de prison. Il s'adresse à qui de droit. Sa requête n'a aucun succès. Et comme dans l'intervalle, ce désir, très explicable d'ailleurs, n'avait fait que s'aviver, son imagination toujours en éveil lui fournit un moyen moins banal de reconquérir sa liberté. Il écrit au prince de Cobourg, alors occupé à guerroyer dans le nord de la France, et lui expose humblement sa situation. Il n'omet pas le récit de son dévouement à la reine. Il dit le danger qu'il a couru. Il fait ressortir comment les émigrés, honteux de leur propre inaction, se sont vengés de ses vertus en le faisant emprisonner. Il signe cette supplique, Vetzamarle de Rougeville, accolant ainsi à son nom celui de son frère mort au service de l'Autriche. Puis, il expédie sa lettre et attend, bien tranquille, sur le résultat de sa demande. Ceci se passait à la fin d'avril 1794. Le prince de Cobourg était à cette époque à Cateau-Cambrésis où, assisté du duc d'York, il venait de remporter sur les troupes françaises une victoire qui avait ouvert aux coalisés les portes de l'Andrecy. Il avait, il faut le reconnaître, d'autres soucis que les malheurs de Rougeville qui, d'ailleurs, lui étaient parfaitement inconnus. Aussi, la lettre qu'il lui fit répondre par un de ses secrétaires était-elle d'une sécheresse déconcertante. Cateau, le 9 mai 1794. C'est le gouvernement qui a ordonné la détention de M. de Rougeville. C'est au gouvernement qu'il doit s'adresser pour la faire finir. Sa requête a été mise dernièrement au cabinet de Sa Majesté l'Empereur. Le maréchal, prince de Cobourg, n'a ni le temps ni la vocation de s'occuper d'une affaire qui est étrangère à ses fonctions et doit se contenter, par conséquent, de souhaiter que le sort de M. de Rougeville soit adouci le plus tôt possible. Et cette note impitoyable est revêtue de cette signature autographe que le prince y daigna apposer, F. Cobourg, F.M. C'est tout ce que Rougeville désirait. S'il ne bondit pas de joie à la réception de cette lettre, s'il ne perdit pas son temps à bénir le prince qui, si complètement, donnait dans ses panneaux, c'est qu'il avait mieux que cela à faire. Et le voilà qui, pendant plusieurs jours, s'exerce à reproduire à main levée cette toute puissante signature. F. Cobourg, équivalent pour lui au Sésame, ouvre-toi des mille et une nuits. On retrouve encore dans ses papiers un chiffon sur lequel sa main s'est appliquée à lancer d'un trait de plume rapide et délié l'F et l'M, Feldmaréchal, qui forment le paraphe. Et je dois dire qu'il semble avoir atteint rapidement, en ce genre d'exercice, une habileté extrême. Sûr de lui, désormais, il mit de côté la dédaigneuse réponse du prince et s'adressa à lui-même la lettre quelque peu plus chaude que voici. Il n'oublia pas même, pour plus de vraisemblance, d'y glisser une faute de français qui authentifiait en quelque sorte la prose de l'altesse allemande. Le prince de Cobourg à Monsieur de Rougeville. Sa Majesté l'Empereur me charge, monsieur, de vous faire part de ses sentiments de gratitude pour les distingués et loyaux services que vous avez rendus jusqu'au dernier moment à votre souverain et principalement à la reine. Il m'ordonne en même temps de vous engager à reprendre votre ancienne charge de capitaine des gardes du prince d'Holstein-Hohenlohe avec rang de lieutenant-colonel ou la place de chef d'escadron du régime Caraquet, chevaux légers, ci-devant Richecourt, vacante par la mort de M. de Gouze de Wetzamarl, votre frère aîné extrêmement regretté de ses chefs, de ses camarades et de ses soldats. Il antidata, pour plus de vraisemblance, du quartier général de Mons le 13 février 1794 et il le signa bravement F. Cobourg, F. M. Le subterfuge était moins grossier qu'il peut le paraître. Les Pays-Bas autrichiens étaient alors dans une situation politique assez confuse. D'abord révoltés contre l'autorité de l'empereur, ils avaient été conquis et occupés par les Français. Les troupes coalisées s'en étaient emparées de nouveau et l'Autriche y avait rétabli un semblant d'administration. Mais le désarroi y était grand. Quant aux deux personnages mis en jeu dans cette lettre, ils étaient loin. Cobourg, en France, menait la campagne. Encore quelques semaines et il allait être si complètement battu à Fleurus que, dépité, découragé, définitivement vaincu, il devait se résoudre à abandonner son armée et à vivre dans la retraite. L'empereur, à Vienne, avait bien d'autres préoccupations, ma foi, que de savoir si Rougeville faisait bon ménage avec les émigrés ou s'il s'ennuyait en prison. Et puis, qui aurait été assez soupçonneux pour suspecter une telle lettre? Qui aurait poussé la méfiance jusqu'à en contrôler l'authenticité? Il eût fallu pour cela interroger ou l'empereur ou Cobourg, et l'idée certes n'en vint à personne. Rougeville, d'ailleurs, avait pris ses précautions. Afin de pouvoir soutenir au besoin qu'il avait été la première et naïve victime d'un faussaire, il tenait tout près le brouillon d'une réponse qu'il était censé avoir adressée au prince, réponse où, tout en se confondant en remerciements, il refusait hautement les généreuses propositions de l'empereur. Non, certes, il n'accepterait pas les fonctions de lieutenant-colonel dans l'armée autrichienne. Sa place était en France. Et il ne demandait sa mise en liberté que pour courir à Paris, se dévouer encore à la cause royale et chercher à sauver le jeune roi Louis XVII. Quel fut le succès de cette comédie? Nous l'ignorons. Le faux de Rougeville lui ouvrit-il les portes de sa prison? C'est probable. Le moyen de garder sous les verrous un homme à qui l'empereur fait part de ses sentiments de gratitude et offre un haut emploi dans son armée. Dut-il, au contraire, attendre jusqu'au premier jour de juillet 1794, l'heure où, les Français approchant, l'Autriche dut forcément relaxer tous les prisonniers politiques? C'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il reprit vers cette époque le chemin de Paris. Le 9 Terminor venait de mettre fin à la terreur, et si la révolution durait toujours, l'échafaud, du moins, allait prendre quelque repos. L'heure était bonne pour conspirer.